Si vous avez envie de travailler sur un porte-avions, notamment sur le fleuron de la marine française qu'est le Charles de Gaulle, vous avez deux options. Soit vous engagez dans la marine nationale, soit entrer chez Naval Group, qui réalise les grands chantiers de maintenance et de modernisation du porte-avions, et qui va construire dans les années qui viennent son successeur, le porte-avions de nouvelle génération, prévu pour 2038. En attendant, vous pouvez participer à ce projet en rejoignant les 18 000 collaborateurs de Naval Group en France et à l'international, en allant voir les offres d'emploi sur naval-group.com à l'onglet carrière.
Bonjour à toutes et tous et bienvenue sur Le Fil de l'Épée, un podcast consacré à l'histoire de la guerre et des conflits armés, coproduction entre Le Collimateur et Parole d'Histoire. Un podcast associé au Rubicon et réalisé en partenariat avec le Centre des études de sécurité de l'IFRI et avec le soutien de la DGRIS du ministère des Armées. Je suis André Loez et ravi de vous retrouver Alexandre pour ce nouvel épisode sur Le Fil de l'Épée, aujourd'hui consacré à ce qui est rien de moins que l'une des plus grandes victoires navales de l'histoire française, en tout cas une de celles qui a le plus de conséquences, puisqu'il s'agit de l'indépendance des États-Unis qui se joue là, à savoir la bataille de Chesapeake, et plus généralement ce qu'elle révèle des manières de faire la guerre sur mer au XVIIIe siècle.
Alors pour en traiter, on a aujourd'hui le plaisir de recevoir les deux directeurs d'un ouvrage remarquable sur l'armée navale du comte de Grasse, l'amiral de Grasse et l'indépendance américaine, paru il y a quelques mois aux presses de Sorbonne Université. Amiral de Grasse qui est donc resté à la fois le vainqueur glorieux de la Chesapeake et le vaincu honteux et délaissé de la bataille des Saintes quelques mois plus tard. Donc tout d'abord Olivier Chaline, professeur d'histoire moderne à Sorbonne Université, directeur de la Fédération 41-24 d'histoire et d'archéologie maritime. Donc bonjour, bienvenue sur Le Fil de l'Épée.
Merci Alexandre.
Et ensuite Jean-Marie Kowalski, maître de conférence à l'école navale. Bonjour, bienvenue à vous aussi.
Bonjour Alexandre.
Alors je vais juste ajouter tout de suite, que je pense que les auditeurs savent que ce sont plutôt mes thèmes, la guerre sur mer à l'époque moderne, et je vais préciser par transparence que c'est un épisode un peu particulier puisque je reçois aujourd'hui mon directeur de thèse dans la personne du professeur Chaline, ce qui n'est pas banal, et que j'ai souvent croisé Jean-Marie Kowalski pendant ces années-là, notamment dans mes comités de suivi de thèse, donc c'est assez personnel pour moi. Et c'est un dossier que j'ai suivi de loin, même si c'est pas non plus mon sujet, c'est quelque chose que j'ai suivi pendant des années en séminaire de recherche notamment, mais je vais dire tout de suite que pour autant, peut-être parce que c'était très proche justement, c'est une émission dont l'idée m'est venue de l'extérieur, plus précisément de la Marine nationale qui m'a soufflé l'idée. On en reparlera parce que ça dit quelque chose d'un réinvestissement mémoriel de la bataille de la Chesapeake qui est à l'œuvre en ce moment et que c'est tout à fait intéressant. Donc il reste que je ne suis pas très objectif et en même temps je pense très sincèrement que c'est un ouvrage et plus largement une étude tout à fait exceptionnelle dans son envergure et dans son ambition, puisqu'on plonge littéralement à l'intérieur d'une armée navale pendant plusieurs mois entre 1781 et 1782, le temps de présence de cette flotte du comte de Grasse en Amérique. Et je suis bien placé pour dire que c'est pas que c'est rare, c'est que ça n'existe pas, des études qui arrivent à ce niveau de détail sur la conduite d'une flotte à l'époque moderne, faute de sources. Hein. Et une première entrée, c'est donc peut-être ce paradoxe que cette armée navale du comte de Grasse, cette campagne, c'est un épisode de l'histoire navale et guerrière française qui est donc marqué par une très grande victoire, la Chesapeake, 11 septembre 1781, d'ailleurs plus grande par ses conséquences que par son détail, on y reviendra, et par une très grande défaite, les Saintes, en avril 1782. Donc on serait tenté de prendre tout ça par l'angle des grandes batailles qui ont fait et défait l'histoire navale de la France, et pourtant ça n'est pas l'angle de l'ouvrage, cette étude des batailles, et vous vous détachez de ces deux grandes dates en les enserrant dans une trame de fond qui est réellement votre sujet, à savoir cette longue campagne de l'armée navale du comte de Grasse. Et c'est donc un parti pris fort qui est celui d'une histoire opérationnelle, donc un échelon intermédiaire entre la grande stratégie mondiale de la France et de l'Angleterre et l'étude tactique des batailles qui s'y déroulent. Donc peut-être expliquez-nous pourquoi cette échelle et pourquoi elle s'impose selon vous particulièrement pour cet épisode-là, pour cette campagne-là du comte de Grasse en Amérique. Professeur Chaline ?
Alors Alexandre, ce sont souvent les sources qui commandent. Dans notre travail d'historien, vous avez remarqué tout à l'heure qu'en général, on ne pouvait pas faire ce genre de travail. Et là, avec cette histoire, on collectionne des paradoxes. Sans doute la victoire de la marine française qui a le plus marqué l'histoire du monde, mais c'est une victoire pour les autres, puisque les grands bénéficiaires sont les jeunes États-Unis d'Amérique, beaucoup plus que la France. Autre paradoxe, si on connaît bien cette campagne, c'est parce qu'il y a une défaite qui va engloutir en quelque sorte la mémoire du comte de Grasse jusque assez tard dans le XXe siècle, en tout cas en France. Et nous avons, grâce à cette défaite, une énorme masse de sources des journaux de campagne tenus par des officiers, pas seulement des commandants ou des gens haut placés dans la hiérarchie navale. Malheureusement, on n'a pas celui du comte de Grasse, que je précise tout de suite. Mais on a une énorme masse de sources conservées aux archives nationales, mais des sources assez rébarbatives. Bon, il est clair que si vous les abordez avec simplement le bagage qui est celui d'un agrégé d'histoire, ça ne va pas suffire. Parce que c'est technique, c'est répétitif. Et là, il a fallu prendre des choses à bras-le-corps, mais avoir d'autres compétences.
Et on peut dire, si on les a pour une fois, c'est qu'elles ont été conservées justement en vue du procès du comte de Grasse après la bataille des Saintes. Donc c'est en quelque sorte l'ignominie terminale qui permet de sauvegarder...
Qui a permis de faire l'histoire. Et alors, un procès qui est celui de tout le monde. Parce que de Grasse en captivité en Angleterre commence à attaquer certains de ses subordonnés, Bougainville pour ne pas le nommer, et puis ça devient le procès d'une armée navale entière. Alors ça, on n'a jamais vu ça. Ça apprend tout le monde de court, à commencer par Louis XVI, qui n'a pas tellement aimé. On n'en voulait pas à de Grasse de s'être fait battre aux Saintes. D'ailleurs, les Saintes n'ont pas changé le cours de la guerre, alors que c'était la plus grande bataille de tout le conflit. En revanche, on lui a voulu énormément de...
De cracher dans la soupe.
Voilà, de jeter en pâture l'intégralité de ses subordonnés. Et c'est l'homme par qui le scandale arrive.
Et donc ces sources qui sont conservées, qui sont produites au Conseil de guerre à Lorient, si je ne me trompe pas, ce sont des sources, il y a sans doute des témoignages postérieurs, des gens qui viennent témoigner au Conseil de guerre, mais il y a surtout les journaux de bord contemporains rédigés par les officiers. Alors Jean-Marie Kowalski, à quoi ça ressemble un journal de bord? Vous en citez de nombreux extraits. Il y a des caps, il y a des vitesses, il y a des sondages lorsqu'on remonte du fond du sable blanc avec des coquillages. Autrement dit, il y a toute une série de notations techniques qui permettent d'entrer dans le détail de la vie maritime.
Alors ce sont précisément des écrits de technique, mais ce sont aussi, du moins du côté français, des écrits personnels, puisque à l'époque, chaque officier est tenu de tenir son journal. D'où une forme de suspicion qui planait sur ses écrits au départ, puisque, étant des écrits personnels, on les soupçonnait forcément de contenir une part d'auto-justification de l'action menée. Et donc, ces écrits sont effectivement techniques. On y trouve des indications obligatoires, la position quotidienne, les caps suivis, les vitesses des bâtiments, les amers remarquables, enfin, toute une série d'informations de nature technique, mais également des informations sur la manœuvre des bateaux, ce qui exige d'avoir quelques connaissances tout de même en termes de navigation, et pour cela de s'appuyer sur les compétences là où elles existent, d'où l'intérêt qu'il y a eu à travailler pendant des années entre la Sorbonne et puis l'école navale, où nous pouvions réunir les compétences des deux bords.
C'est des compétences au passage qui sont celles de la marine à voile ancienne, autrement dit, il ne suffit pas d'être un officier de marine aujourd'hui, il y a quand même cette dimension très spécifique de vaisseaux à voile carrée, de formes particulières qui demandent une familiarité.
Alors les différences sont extrêmement nombreuses, y compris dans la manière de faire le point, tout simplement. C'est-à-dire qu'un officier de 2024 serait bien en difficulté de faire le point comme on pouvait le faire en 1781. Néanmoins, il reste un certain nombre de compétences nautiques et qui aident considérablement à comprendre les écrits que nous avons entre nos mains. Et tout cela forme une espèce de gigantesque puzzle. C'est-à-dire que les témoignages individuels que l'on peut avoir, côté français, côté britannique, fournissent autant d'images parcellaires en fait, de ces opérations que l'on étudie. Et ce que l'on a pu voir petit à petit, c'est en travaillant vraiment d'arrache-pied sur ces sources, combien elles composaient une image cohérente. De part et d'autre, du côté français, du côté britannique. Sinon, s'il y avait une question de base, mentent-ils, se justifient-ils? La réponse est non. Ils disent ce qu'ils voient, ils racontent des opérations vues de la passerelle, avec un point de vue qui est celui de leur grade, de leur fonction, mais ces témoignages sont fiables.
Est-ce que ce sont des textes qui sont rédigés parfois dans le feu de l'action? Il y a des passages où vous évoquez la bataille des Saintes, la bataille de la Chesapeake, avec des notations qui sont ajoutées en disant à telle heure on a repéré une voile, à telle heure on a ordonné d'ouvrir le feu, à telle heure on a vu tel signal. Autrement dit, c'est des notations qui sont ajoutées immédiatement?
Alors les indications sont souvent minutées. Rarement écrites dans le feu de l'action directement, parce que bien évidemment ils ont toute autre chose à faire, il y a des considérations très pratiques aussi. On ne voit rien pendant le combat, et en plus du fait que l'on a autre chose à faire, Donc c'est souvent écrit après, quand le temps le permet, mais d'une manière assez précise, qui permet de donner un détail qui descend parfois à la minute près sur ce qui a pu se passer à bord.
Avec des notations inattendues, mais qui montrent qu'on est encore proche du vécu. L'officier qui note que un boulet a fracassé l'épinette, elle va marcher beaucoup moins bien, on ne pourra plus jouer de la musique.
Mais alors, pour comprendre tout ça, il faut peut-être commencer par le replacer dans un contexte plus large, qui est celui de cette guerre d'indépendance américaine, qui est celui du soutien aussi français aux insurgés américains, et, disons-le tout de suite, de cette expédition, qui est une expédition mémorable, monumentale, à l'échelle de ce que fait, d'un point de vue naval, la France. Et je vous dis tout de suite, ce n'est pas que du contexte pour le contexte, c'est aussi, ça va infuser jusqu'aux détails les plus concrets, parce qu'une armée navale de cette taille-là, on va voir que ça a d'immenses difficultés à être mis en musique efficacement. Mais alors, est-ce qu'on peut peut-être donc commencer par replacer ce moment-là, cet investissement de la France? Pourquoi envoyer tant de navires et avec quel objectif, donc, disons en 1781?
La guerre d'indépendance américaine est une guerre qui a été voulue du côté français, qui a donc été préparée, à la différence de la guerre de 7 ans, par exemple. On veut prendre sa revanche sur l'Angleterre à cause de la paix du traité de Paris de 1763, qui a été vécue comme une humiliation en France, mais aussi du côté espagnol. Et là, l'Espagne va entrer en guerre en 1779, un an après la France. On est en 1781, le 22 mars, quand il y a cet énorme appareillage de Brest, de l'armée navale du comte de Grasse, mais aussi d'une force plus légère qui est celle de Suffren, parce qu'il y a deux opérations, pas tout à fait de la même taille, qui sont prévues, mais de dimension mondiale toutes les deux. Envoyer une force navale importante, 20 vaisseaux, on n'a jamais envoyé autant aux Antilles, avec, pas d'instructions, mais des suggestions, ce qui est rare dans le domaine militaire. On se dit que de l'autre côté de l'Atlantique, c'est quand même loin. Donc il faut laisser un peu la bride sur le cou au commandant. Vous établissez la supériorité aux Antilles, et puis si vous le pouvez, vous allez faire la même chose en Amérique du Nord. Mais attention, 20 vaisseaux sur un potentiel naval français qui est d'environ 60 vaisseaux, c'est quand même tout à fait important. On n'a jamais envoyé autant. Et puis, il y a ce qu'en France, on a complètement oublié. Ce qui est marqué noir sur blanc dans la lettre remise à De Grasse, à son départ de Brest, vous êtes l'auxiliaire des Espagnols. Et ça, c'est absolument décisif. C'est-à-dire, tout ce que De Grasse va pouvoir faire du côté de l'Amérique du Nord, c'est dans le cadre de l'alliance avec l'Espagne, et c'est dans la subordination au commandant espagnol de Louisiane, Antonio de Calfes, et heureusement, les deux hommes vont bien s'entendre. Et puis, il y a l'autre volet. Le rêve français, 1781, c'est d'allumer la guerre en Inde. Et c'est pour cela que Suffren part avec 6 vaisseaux pour renforcer des forces qui sont déjà là-bas. Et Suffren espère bien que le commandant là-bas va bientôt mourir pour être le chef. Et ça va être la fortune de Suffren, à différence de celle plus nuancée de De Grasse.
De Grasse, justement, est-ce qu'on peut dire qui c'est à ce moment-là et qu'est-ce qui préside au choix pour ce commandement tout à fait exceptionnel, gigantesque, effectivement, en termes d'investissement naval?
Jean-Marie Kowalski.
De Grasse est à ce moment-là un homme âgé. Il a déjà commandé quand même un certain nombre de fois à la mer. Il est également fatigué, mais ce qu'il y a sans doute de plus intéressant, c'est que ce n'est pas lui forcément qui devait commander.
Il n'est pas Tréville, l'oncle.
Voilà.
Tout est en passant, on repère que tous ces noms sont aussi devenus des noms de bâtiments de la marine nationale, donc ceux qui ont l'oreille un peu marine.
Mais voilà, bienvenue du 7e arrondissement.
Voilà, aussi.
et donc, il n'était pas le premier choix. Voilà. Donc, dans l'ordre des officiers généraux, ce n'est pas lui qui devait commander, néanmoins, c'est lui qui accepte.
C'est-à-dire qu'il y a des considérations politiques. La première idée de cette expédition, c'est le secrétaire d'État de la marine, Sartine. Et puis Sartine est renvoyé à ses foyers à l'automne 1780. Arrive le marquis de Castres, qui va chercher quelqu'un d'autre. Et puis on va finir par arriver à De Grasse qui accepte. Alors qu'il rentre juste des Antilles et qu'il aurait besoin de se refaire une santé. Et convoque à Versailles, on lui dit, bon, allez, il va falloir repartir. Ça fait pas que des heureux. Dans les archives, on trouve des lettres extraordinaires. Je ne pense pas qu'on oserait aujourd'hui écrire ministre des Armées sur ce ton-là, en expliquant qu'il a fait un mauvais choix. Alors, c'est écrit dans le français du XVIIIe siècle, c'est merveilleux. Mais on lui dit, voilà, vous avez pris une très mauvaise décision. La seule personne qu'il fallait envoyer, c'était moi. Quoi.
Y compris dans les officiers généraux qui se retrouvent en Amérique du Nord. Je pense à Barras.
Ben, Barras, qui n'a pas du tout accepté.
Voilà. Alors Barras, on y reviendra, mais qui est l'un des enjeux de cette campagne, ça va être de faire la jonction entre les forces de Barras et les forces de Grasse, et c'est ça qui, in fine, finira par faire la victoire de la Chesapeake.
Mais en termes de commandement, il y a là un élément qui est extrêmement important pour comprendre même ce qui se passe après la Chesapeake, c'est-à-dire que non seulement ça pose un problème vis-à-vis d'autres officiers généraux, mais de Grasse n'est... souffre de cette représentation auprès de ses propres subordonnés, dont certains sont des capitaines.
Qu'il n'a pas choisi.
Non.
Et qu'il n'a pas choisi.
Qui sont pour certains des capitaines de vaisseaux très brillants, qui se savent brillants, qui peinent à reconnaître un chef qui n'est pas le premier choix.
Mais alors, on peut rajouter quelques détails sur le caractère de De Grasse, ou en tout cas sur sa réputation à l'époque, parce que ça laisse aussi présager de la manière dont on concevait ses opérations depuis Versailles. C'est De Grasse a la réputation d'être offensif, d'être agressif, ce qui en fait intéresse Versailles à ce moment-là, parce qu'il y a eu une précédente expédition en 1779 où on trouvait que Guichen n'avait pas été assez agressif, n'avait pas été assez offensif. Et donc là, on cherche à quelqu'un qui a ce tempérament-là et à qui on laisse donc la bride sur le cou pour aller... On n'a pas forcément grand-chose en tête à ce moment-là, mais pour aller disrupter en tout cas l'emprise anglaise sur les Antilles et l'Amérique du Nord.
La guerre dure depuis 1778, ça coûte très cher. Précisons que c'est la seule guerre de toute l'histoire de France dans laquelle la marine joue, la marine par ses bateaux, mais aussi parce que les colonies dépendent de la marine, elle joue le premier rôle. L'armée, notre armée de terre en quelque sorte, étant là dans une position finalement plus secondaire. Donc ça, c'est déjà quelque chose d'important. De Grasse, il est connu pour être, comme vous venez de dire, Alexandre, très offensif, et on le sait, dès 1772, l'escadre d'évolution organisée par l'amiral d'Orvilliers, où on a l'appréciation sur le jeune De Grasse, une sorte de fort potentiel de la marine de l'époque, s'est dit, voilà, alors, il faudra absolument lui donner un commandement important. Alors, De Grasse, il faut imaginer qu'on a une sorte de géant provençal, mais sur le mode taiseux, c'est...
Géant parce qu'il est très grand.
Il est très grand. C'est un méridional qui dit rien. C'est pas Suffren, vous voyez, c'est deux provençaux, mais pas du tout le même style. C'est à tous égards. De Grasse, c'est quelqu'un qui a par ses belles familles successives, s'est marié plusieurs fois, des accointances dans le milieu planteur des îles. Donc, c'est quelque chose qu'il connaît assez bien. C'est pas quelqu'un de facile à commander. Guichen en a fait l'expérience où il a refusé d'obéir à un ordre de Guichen devant toute l'escadre. Et là, tout ça, ça se sait dans la marine. Et les gens qui vont être sous les ordres de De Grasse ensuite vont devoir obéir à quelqu'un qu'ils ont vu désobéir publiquement.
Et qui est un très bon marin. On le voit très clairement dans les journaux. L'analyse qu'il fait des situations nautiques, l'analyse qu'il fait même des situations météo, les options tactiques qu'il prend sont généralement excellentes. Donc il a une expérience du combat absolument incroyable, il a une expérience de navigation hors pair.
C'est un ancien Maltais.
C'est-à-dire...
C'est une
étape potentielle pour les parcours notamment d'officiers de marine provençaux, de passer dans l'ordre de Malte, de faire un peu le corso en Méditerranée contre les barbaresques, et ensuite de réintégrer les armées du roi. Mais tout ça pour dire que ça lui donne quand même une petite expérience et un petit cachet au moment de prendre la tête de cette armée navale.
Et en plus de ses qualités de formation, de ses qualités nautiques, on a parlé de sa combativité finalement, c'est quelqu'un qui, sur le plan tactique, est assez innovant. et c'est une chose qu'il met en œuvre d'ailleurs le 5 septembre en inventant
le 5 septembre à la Chesapeake
avec ce fameux ordre de vitesse qu'il avait déjà testé en arrivant aux Antilles. Mais il est là dans une démarche qui n'est pas du tout une démarche d'improvisation, qui est vraiment une démarche d'innovation tactique, car il a aussi connaissance de certaines faiblesses de la flotte française, en particulier sa vitesse. Donc c'est là aussi le signe d'un marin hors pair.
Vous avez parlé d'un géant provençal. Je me demandais s'il y avait parfois du tirage entre les Toulonnais et les Brestois, entre des appartenances différentes, y compris au niveau des officiers.
La réponse est oui.
La réponse est oui. Et superlativement oui.
Non, mais ça
fait toujours. J'ai touché là.
Depuis qu'il y a des arsenaux à Brest et à Toulon.
Voilà. Bon, pour résumer, ivrogne de Brestois, voleur de Provençaux.
Voilà. Et ça transpire dans tous les journaux.
Et c'est écrit.
C'est écrit et souvent il y a des étincelles qui apparaissent lorsqu'on met un officier brestois sur un vaisseau toulonnais où là la règle vient se fracasser contre la pratique.
Il y a des dominantes quand on épluche les rôles d'équipage.
Donc les listes d'équipage
de toutes les personnes marins ou pas marins présentes à bord. Il y a des bâtiments qui sont très majoritairement ponantais et il y en a d'autres très majoritairement levantins, c'est-à-dire méditerranéens.
Et ce qui recoupe aussi, enfin, on en reparlera peut-être, mais le fait que souvent il y a des cercles de sociabilité, voire de parenté dans le commandement d'un navire. Les gens viennent parfois avec leur entourage, mais ça peut donc infuser jusqu'au plus bas niveau. Mais alors, revenons peut-être à cette armée navale du Comte de Grâce, dont on a dit qu'elle était énorme. Mais c'est un problème. Parce qu'une armée navale, tout l'enjeu depuis toujours, c'est de réussir à faire en sorte qu'elle navigue ensemble. Et évidemment, plus elle est grosse, plus c'est compliqué. Donc, est-ce qu'on peut peut-être détailler en fait les enjeux
Alors, pourquoi est-ce qu'elle est aussi grosse? La réponse, elle est très simple. Ça fait 3 ans qu'on est en guerre. Ça coûte horriblement cher. On veut en sortir. Parce que l'expérience des guerres précédentes montre qu'au bout de 3-4 ans, la France entre financièrement dans une zone critique, et c'est en général là où ça craque. Qu'on est capable de faire un type de guerre qui est financièrement à peu près contrôlable pendant 3-4 ans, et après, c'est l'aventure, voire la banqueroute. Et ça, on l'a vécu en 1759. Vous voyez, 1756-59, on arrive aux... Les grandes défaites navales de la France dans la guerre de 7 ans correspondent au moment où les finances de la marine s'effondrent. Donc, là, on a un autre mode de financement. Necker finance la guerre à coup d'emprunt. Ça va poser quelques problèmes plus tard, mais n'anticipons pas. Et donc, comme on veut arracher la décision, on ramasse, en fait, c'est un coup de poker que tente Castres, c'est ramasser le maximum de moyens navals. On projette tout. Je serais tenté de dire, on jette tout de l'autre côté de l'Atlantique. Et là, il faut qu'il se passe quelque chose. Parce que l'année précédente, c'était en Jean. Il n'y avait pas de succès décisif. Et puis, un certain nombre de gens à Versailles, dans l'entourage de Maurepas, le mentor de Louis XVI, notamment, commençaient à dire, bon, allez, maintenant, il faut négocier avec Londres.
Et puis, une flotte d'une telle taille, ça pose aussi des problèmes opérationnels très concrets. Lorsque l'on commande une flotte d'une telle dimension, il faut bien imaginer qu'on commande à l'aide de pavillons. Et donc, les ordres que l'on transmet au reste de la flotte sont transmis par pavillons. Donc, quand on a une flotte qui fait plus de 20 vaisseaux, et bien il faut imaginer qu'elle s'étend sur une distance absolument gigantesque.
Plusieurs nautiques.
Il faut pour cela des frégates répétitrices, il faut pour ça une chaîne de
commandement organisée. Donc des frégates répétitrices sont des navires un peu plus petits que les vaisseaux, qui peuvent donc être plus rapides, qui peuvent se disposer un peu plus aisément au sein du groupe et se mettre dans une position idéale pour pouvoir voir les commandements qui viennent du navire amiral et les répéter jusqu'au bout de la file.
Si l'ennemi est à tribord, ils seront à bâbord, quoi.
Cet enjeu des signaux, je pense qu'on y reviendra parce qu'il est fondamental, y compris au moment des batailles qu'on va évoquer. Il faut ajouter que c'est une flotte très vaste aussi, parce qu'au moment où elle apparaît en mars 1781, elle est accompagnée de navires marchands. Donc il y a non seulement les 20 navires de guerre, mais 150 navires marchands. Donc ça fait quelque chose de gigantesque. Il y a un très beau chapitre, Prendre la mer, qui explique que même pour appareiller, savoir quel navire va lever l'ancre le premier, dans quel ordre, pour respecter les marées dans le goulet de Brest, c'est une complexité absolument incroyable. Et ensuite, pour coordonner tout ça à la mer.
Ce sont des bateaux tamponneurs. Hein. Ça ne veut pas dire que ce soit de mauvais marins. Hein. Mais les questions de manœuvre, on n'a pas assez de place, le voisin a pris un peu trop ses aises, on va se rentrer dedans. Bon, on froisse de la tôle, hein, comme avec des voitures aujourd'hui, ce n'est pas plus que ça. Mais dès l'appareillage de Brest, il y a quelques capitaines de vaisseau qui sont quand même un peu moins bons, un peu plus négligents.
Et puis ils n'ont pas tous des bateaux aussi rapides.
Alors ils n'ont pas tous des bâtiments équivalents. Et puis quand il va falloir traverser l'Atlantique avec 150 navires marchands, c'est quand même 150 boulets potentiels, quoi.
Alors, on peut peut-être dire une chose, parce que c'est la grande innovation technique de cette fin du XVIIIe siècle qui explique le décalage de vitesse. Mais il y a vraiment, et ça apparaît dans tout le livre, il y a les navires qui l'ont et les navires qui l'ont pas, c'est le doublage de la coque en cuivre qui coûte cher, qui est long, mais qui a des mérites innombrables pour les navires. Alors, est-ce qu'on peut en dire un mot de vraiment cette espèce de schisme, parce que c'est des flottes qui sont en train d'être renouvelées, qui sont en train d'être doublées en cuivre, mais au moment de cette campagne, on est très loin d'avoir tout doublé, que ce soit du côté français ou du côté anglais.
Alors, une coque d'un navire qui se trouve dans les mers chaudes, par exemple les Caraïbes, va subir deux types d'altérations. Il y a les tarets qui risquent de percer la coque, de créer des voies d'eau.
Donc, ils sont des petits mollusques qui mangent le bois.
Qui mangent le bois. C'est assez impressionnant de voir le résultat. Et puis, il y a les concrétions qui vont se former, les coquillages, les algues. Une coque se salit extrêmement vite. Et là, ce qui veut dire que si on a une coque sale, on va perdre de la vitesse de manière très significative. Alors, la Royal Navy a été en mesure financièrement, non sans mésaventures technologiques. Ils ont fait quelques mauvaises expériences avant la guerre. Mais au début de la guerre, tous les vaisseaux de la Navy sont doublés en cuivre. Ce qui suppose aussi le potentiel industriel derrière, hein, pas seulement l'argent. La France y est entrée plus tard. Et donc, quand de Grasse appareille de Brest, 22 mars 81, il va découvrir assez rapidement qu'il juxtapose des lièvres et des tortues. C'est-à-dire qu'on a des bâtiments qui sont doublés en cuivre, qui sont plus rapides, qui peuvent faire jeu égal avec les Britanniques. Et puis il y a ceux qui ne sont pas doublés, même si leur coque est à peu près propre, mais ils vont se traîner derrière. Et ça va poser plein de problèmes de cohésion, plein de problèmes de commandement. C'est vraiment un handicap. Et De Grasse comprend dès l'arrivée à la Martinique, dès le premier affrontement avec les Anglais, qu'il va falloir manier sa force navale en tenant compte de cette dualité.
Le livre, avant d'arriver à ces affrontements, raconte la traversée de l'Atlantique, et c'est, à mon sens, en histoire militaire, quelque chose de très fort, qui est de ne pas se focaliser sur les paroxysmes, mais de montrer la routine, de montrer les formes d'apprentissage, les formes de mise à niveau entre façon de procéder, façon de commander, façon de naviguer ensemble. Alors, qu'est-ce qui fait la réussite, finalement? Est-ce qu'on peut dire que De Grasse a réussi sa traversée et que, d'une certaine manière, s'est formé, alors je ne sais pas si on dit un esprit de corps pour des marins, mais s'est formé quelque chose d'une cohésion de cette flotte, Jean-Marie Kowalski?
Alors, la cohésion se fait, on va dire, d'une manière assez brutale, qui est à l'arrivée, puisque lorsque la flotte arrive aux Antilles, il y a un comité d'accueil. Un comité d'accueil assez peu sympathique, puisqu'il y a une flotte britannique qui est là, ils sont accueillis en anglais, en fait, aux Antilles. Donc, dès l'arrivée dans l'arc caribéen, eh bien, c'est le combat qui s'engage. Un combat qui s'engage où ce que l'on vient de décrire, à savoir l'inégalité de marche des vaisseaux, ressort d'une manière vraiment très très claire. Et c'est un peu une leçon ou une douche froide, on va dire, pour les Français au premier contact, hein, dont ils tirent immédiatement des leçons. Leçon opérationnelle sur ce plan-là, puisque une flotte est obligée toujours de s'aligner sur le plus mauvais marcheur. Voilà, donc le bateau qui va le moins vite détermine le rythme de la flotte. Première leçon, puis deuxième leçon arrive très rapidement avec les premières opérations amphibies qui sont menées dans les îles des Antilles. Et on se rend compte que la coordination entre les vaisseaux de guerre et les bâtiments de commerce est une chose extrêmement difficile. Et c'est de ces opérations, on retient assez rapidement un certain nombre de leçons qui seront particulièrement utiles dans la suite des opérations, y compris celles qui sont menées en Amérique du Nord.
Ce qui est très frappant, c'est la capacité, nous parlerions aujourd'hui de retour d'expérience, c'est-à-dire de mauvaises expériences, débarquement raté à Sainte-Lucie, par exemple en mai 1781, sont tournées en un savoir-faire opérationnel qui fait qu'on est efficace en septembre. c'est quand même très rapide.
Mais alors, parlons-en, parce qu'on se... enfin, on le saisit, mais c'est quand même pas banal, ce domaine d'opération qui est confié à De Grasse, parce que, certes, c'est l'Amérique, mais il y a d'un côté les Caraïbes, les Antilles, où là, il doit composer d'ailleurs avec un gouvernement français, avec Bouillet. Vraiment, il y a tout aussi une structure des pouvoirs et des gens avec qui il faut s'entendre sur place. Et puis, il y a cette deuxième mission qui est tout aussi importante, qui est l'Amérique du Nord. Alors, comme ça, aujourd'hui, sur une carte, on a l'impression que c'est pas loin. C'est en fait quand même extrêmement compliqué. C'est du temps de trajet. C'est aussi autant d'endroits où on risque de se faire intercepter par une flotte anglaise pour aller de l'un à l'autre. Et puis, c'est aussi deux régimes, enfin, je veux dire...
Deux régimes de vent.
Deux régimes de vent, deux régimes climatiques. Fait sensiblement plus froid en Amérique du Nord qu'aux Antilles. Ah, c'est quand même... voilà, il y a ces deux champs où De Grasse peut aller, où il est conseillé d'aller, où il va aller, mais qui sont quand même deux aventures assez séparées.
Ce sont deux théâtres qui sont fondamentalement différents, en fait.
Il y a le rythme climatique qui est celui des Caraïbes, avec la saison de l'hivernage, c'est-à-dire le moment des ouragans. Et on a eu l'année précédente, en 1780, parmi les pires ouragans historiquement connus, qui ont coûté à la Royal Navy 5 vaisseaux, c'est-à-dire l'équivalent d'une défaite navale. 5 vaisseaux, c'est ce que De Grasse perd aux Saintes. Et là, qui sont coulés corps et biens par les ouragans. Donc là, tout le monde a bien compris qu'il faut laisser une force assez réduite. Et ce que De Grasse va faire, c'est qu'il va profiter de ces différences climatiques entre la zone caribéenne et puis la Chesapeake, puisqu'il y a une pause des opérations, les Espagnols n'ont pas besoin de lui, ils disent « voilà, vous revenez en septembre ». Et il va donc se tourner vers l'Amérique du Nord, qui est climatiquement un peu plus hospitalière à ce moment-là.
Il fait un coup tactique fabuleux à ce moment-là, parce qu'il sait qu'il va y avoir une forme de passage à niveau qui va se fermer. C'est-à-dire que... il remonte vers l'Amérique du Nord à la fin de l'été, et il sait, en faisant le choix d'envoyer la totalité de ses moyens navals, il dégarnit les Antilles, il prend un risque, mais un risque limité, puisque entrant dans une période peu praticable pour tous les bâtiments, français comme anglais, il limite le risque que les Anglais tentent une expédition contre les Antilles. Donc, d'une certaine manière, il fait tapis, mais en utilisant la fenêtre météo très très réduite qu'il peut avoir pour aller agir en Amérique du Nord.
Et c'est ça la manœuvre qui va surprendre les Britanniques, parce qu'en vous lisant, et c'est justement la grande richesse de ces journaux de bord symétriques en quelque sorte, qu'on voit très bien ce que font les Français, on voit très bien ce que comprennent les Anglais. On ne sait pas toujours d'où ça leur vient, parce que parfois il y a des sources de renseignements.
Le renseignement, c'est discret.
Voilà, qui sont un peu mystérieuses. On ne sait pas si ça vient d'espions à droite, à gauche. Enfin bon.
Il y en a partout, hein, aux Antilles.
Bon. Mais en tout cas, on voit que les Britanniques ont compris que De Grasse allait remonter et allait essayer de les embêter en Amérique du Nord. Mais on voit qu'ils n'ont pas compris qu'il allait y aller à fond et qu'il allait amener toute son armée navale. Et du coup, c'est ça qui fait basculer les choses, parce que s'il en avait emmené la moitié ou les deux tiers, les Anglais pouvaient faire face. Là, parce qu'il fait tapis, d'un coup, les flottes britanniques ne peuvent plus faire face.
Il y a deux coups absolument merveilleux que fait De Grasse là, dans le cas présent. Première chose, c'est de faire la guerre avec tout ce qu'il a dans le garage. Et ça, contre toute attente. C'est-à-dire que les Anglais ne s'y attendent pas. Ils s'attendent à ce que les Français envoient leur meilleur vaisseau.
Il était bien agressif.
Il était... Là, voilà. Il amène tout ce qu'il a.
Et il monte avec plus de 20.
Plus de 20 vaisseaux et aucun bâtiment de transport. C'est-à-dire qu'il surcharge ses vaisseaux d'hommes de troupes.
Ce qui est un risque considérable, parce que s'il doit livrer bataille avec des ponts encombrés de soldats, ça va être le carnage.
Et deuxième coup tactique exceptionnel, c'est qu'il emprunte une route qui n'est pas du tout la route que l'on s'attend à emprunter, puisqu'il emprunte le canal des Bahamas, donc il longe la Floride pour remonter vers le nord, sur une route qui est finalement très mal hydrographiée, tellement mal hydrographiée d'ailleurs qu'on ignore tout des courants qui animent cette région, ce qui fait que d'ailleurs les Français se perdent en mer, ça on s'en est rendu compte, et à un moment donné ils ne savent plus où ils sont, parce que le courant des Bahamas porte vers le nord-est, mais c'est là une audace supplémentaire, c'est-à-dire qu'on part avec tous les vaisseaux que l'on a par une route
que l'on n'emprunte pas ordinairement et sans avoir de bâtiments de transport, puisqu'on surcharge les vaisseaux. Il y a là donc une addition d'audace.
Se perdent tellement qu'ils perdent les Anglais aussi.
Ce coup de maître du destin, en fait, qui est absolument extraordinaire, dont personne n'avait idée. Il a fallu pour cela reporter, grâce à un système d'information géographique, les positions des vaisseaux. Et le collègue géographe à l'école navale, un jour, nous dit il y a un problème dans vos... Vous avez dû vous tromper en reportant ou en lisant. Donc, encore dans son bureau, reprend avec lui, on avait les photos sur l'ordinateur. Non, c'est bien les bonnes positions, il n'y a pas eu d'erreur, c'est bien ce qui est dans les journaux. Et là, on a découvert, tout à coup, nous avons pris conscience que les Français connaissaient un peu le Gulf Stream, mais n'en mesuraient absolument pas la vigueur. Et du coup, ça les a déportés vers l'intérieur de l'Atlantique, vers l'Est, autrement dit. Les Anglais qui arrivent en droite ligne d'Antigua vers la Chesapeake, avec une trajectoire, on a pu reporter, qui est extraordinairement rectiligne, c'est une droite, arrivent devant la Chesapeake, ils voient personne, ils se disent « c'est curieux », n'imaginent pas que les Français puissent être perdus, hein, parce que c'est un peu un côté « on a perdu la 7e compagnie hein, ». Et dans les journaux, ils ont beau avoir M. de Chabert à une horloge pour la longitude, etc., ça ne donne absolument rien.
Et parce que rappelons que pour connaître sa longitude au XVIIIe siècle, c'est très compliqué. Il faut avoir une horloge de marine qui garde l'heure fidèlement. C'est pas toujours très fiable et donc voilà. Il y a tout à fait moyen de se planter.
Et là, nous, on découvre des positions où la ville de Paris, le vaisseau amiral de De Grasse, est dans les Appalaches. C'est-à-dire que depuis l'Arche de Noé, on n'a pas fait aussi bien. Quoi. Donc là, on s'est dit, il s'est vraiment passé quelque chose. Et en fait, ça a joué énormément. Les Anglais ne voient pas les Français, se disent « malheur, les Français sont déjà plus loin, ils vont aller attaquer New York ». Donc Hood va continuer vers New York. Et pendant ce temps-là, les Français, ils sont un peu plus à l'est, en train de sonder, ils essaient de trouver le fond, et puis ils vont finir par se rapprocher très, très lentement et arriver à l'entrée de la baie de la Chesapeake, qui est libre. Les Anglais sont partis.
Now the Chesapeake so bold sailed from Boston, we've been told, for to take the British frigate needs and handy, oh. The people in the port all came out just to see the sport, and the bands were playing Yankee Doodle Dandy, oh. The British frigate's name, which for the purpose came to cool the Yankee courage neat and handy, oh, was the Shannon. Captain Broke, all her men were hearts of oak, and at fighting were allowed to be the dandy, oh. The fight had scarce begun, ere they flinched from their guns, which at first they started working neat and handy, oh. Then brave Brokey waved his sword, crying, now my lads aboard, and we'll stop their playing Yankee Doodle Dandy, oh. They no sooner heard the word than they quickly jumped aboard and hauled down the Yankee colors neat and handy, oh. Notwithstanding all their brag, now the glorious British flag at the Yankee mizzen peak was quite the dandy, oh. Here's a health, brave Broke, to you, to your officers and crew, who aboard the Shannon frigate fought so handy, oh. And may it always prove that in fighting and in love, the British tar forever is the dandy, oh. And may it always prove that in fighting and in love, the British tar forever is the dandy, oh.
Alors peut-être qu'à ce stade, il faut restituer un petit peu l'échiquier plus global de cette guerre d'indépendance américaine, où on en est en cet automne, été-automne 1781, puisqu'il y a plusieurs groupes. Il y a donc la flotte française, dont on vient de comprendre qu'elle s'est perdue avant d'arriver à bon port, la flotte britannique qui du coup les attendait en vain et va ensuite regagner le même théâtre d'opération. Mais il y a évidemment des troupes terrestres britanniques commandées par Lord Cornwallis qui vont finir par s'enfermer dans Yorktown, donc donnant sur la baie de la Chesapeake, et puis des troupes terrestres françaises et états-uniennes, Rochambeau, Lafayette, Washington, qui convergent. Donc c'est comme s'il y avait un échiquier où toutes les pièces étaient en train de converger. Alors est-ce que cette convergence, elle a été un minimum coordonnée? C'est-à-dire est-ce que, en gros, Washington savait que De Grasse et sa flotte étaient en train d'arriver? Est-ce qu'il y avait des échanges, ou en tout cas, est-ce qu'on pouvait le supposer pour qu'il y ait une coordination qui se fasse?
Oui, il le savait. Il y a une idée de manœuvre. Mais le plus étonnant, c'est que ça a marché. Parce que les moyens de coordination, si vous envoyez une frégate qui va arriver plus ou moins longtemps, ou pas arriver, de la même manière que des frégates sont parties des petites Antilles britanniques pour prévenir New York. Attention, De Grasse remonte, on ne sait pas combien où ils sont, mais... Et puis, elles ne sont pas arrivées à temps, ou elles ont été interceptées. Il y a des histoires comme dans les meilleures tragédies, il y a toujours une lettre perdue. Et là, il y a une succession de coups de malchance pour les Anglais, plus une énorme intoxication du renseignement anglais, qui s'attend à ce qu'il y ait un deuxième échelon de troupes françaises. Rochambeau est là depuis 1780. On s'attend à ce que la deuxième moitié du corps annoncé arrive. Donc, les Anglais prennent la mer pour intercepter.
Donc un convoi qui viendrait
de France.
Un
convoi qui n'existera jamais. Quoi. Donc il y a une série d'éléments voulus ou totalement involontaires qui vont contribuer à faire que les Anglais vont être dans l'opacité la plus totale.
Et De Grasse communique dès le mois de mars finalement avec, avec l'Amérique du Nord pour dévoiler ses intentions et faire part de ses intentions. Au moins. Là, on est dans une situation qui, aujourd'hui, fait réfléchir. C'est-à-dire, si on avait finalement un seul message à envoyer en se disant « il va peut-être être reçu et je ne sais pas quand », là, il le fait. Et d'une certaine manière, le miracle se produit. C'est-à-dire que l'effort se porte sur Yorktown, ce qui n'allait pas de soi du tout au départ, hein, puisque d'autres auraient espéré New York.
Faut peut-être dire un mot de ce qu'est la baie de la Chesapeake, donc ce qui est une immense baie dans la Virginie actuelle.
C'est absolument considérable.
C'est là que c'est intéressant, c'est que c'est quasiment une mer intérieure.
En gros, de Baltimore jusqu'à Norfolk.
C'est une mer, c'est 16 000 km². La région Île-de-France, c'est 12 000.
Voilà, donc par ailleurs, et c'est aussi pour ça que c'est stratégique, c'est l'arrivée de plein de cours d'eau qui sont certains des grands fleuves américains. Donc c'est aussi un point d'entrée.
Le Potomac, River.
Un point de rayonnement pour éventuellement pénétrer et attaquer partout dans le territoire détenu par les Britanniques. Donc c'est un point très stratégique. C'est pour ça que les Anglais de Cornwallis se mettent à Yorktown en plein milieu de la Chesapeake. C'est pour ça que c'est intéressant. Mais après tout, comme vous l'indiquez, il y avait aussi d'autres points stratégiques sur l'immense dispositif britannique en Amérique du Nord. Il se trouve que c'est là que ça a convergé ce coup-là. Quoi.
Les Britanniques en Amérique du Nord, ils tiennent le Saint-Laurent avec les anciennes colonies françaises qui vont être parfaitement loyales à la couronne. D'ailleurs, elles détestent les Américains. Ça, elles ne l'ont pas oublié. Ensuite, vous avez New York, qui est la grande base navale et terrestre britannique. Et puis après, il y a de manière éparse ce qu'on appelle les loyalistes, c'est-à-dire des Américains fidèles à la couronne britannique, ce qui historiographiquement on a complètement passé sous silence, hein, jusqu'aux années 1960. Hein.
Tous résistants.
Pas tous, mais alors ce qui a contribué à lancer des opérations britanniques vers, dans les colonies du Sud, vers les Carolines par exemple, avec l'idée que là-bas, il y a des loyalistes. Donc si on y va, ils vont prendre les armes. Alors, c'était partiellement vrai et ça a été aussi exagéré. Et les Britanniques, c'est, comme ce sera le cas plus tard, l'idée que l'armée, comme le dira plus tard Wellington, l'armée britannique est un boulet tiré par ce canon qu'est la Navy. Donc, ils utilisent leur supériorité navale locale pour débarquer des troupes, attaquer tel endroit, puis ils peuvent se rembarquer. Alors, ça va créer un faux sentiment de sécurité qui fait que la campagne dans les Carolines, n'ayant pas donné les résultats escomptés, Lord Cornwallis remonte vers le nord, vers la Virginie. Il va hésiter entre deux points où il sait que, du moins il espère, pouvoir être récupéré par la Navy si ça ne tourne pas bien. Quelque chose de plus près de l'actuelle base de Norfolk aujourd'hui, donc vers l'entrée de la Chesapeake. Et puis un autre endroit où il y a une petite ville avec des fortifications, ce qui s'appelle une petite ville au bord de la York River, qui s'appelle Yorktown. Et c'est finalement à cet endroit qu'il va aller. Mais il est dépendant, évidemment, des liaisons maritimes. Il y aurait quand même une première alerte. Car en mars de la même année 1781, les Français de M. de Ternay, partis depuis Newport, ont essayé d'intervenir. Il y a une première bataille d'Chesapeake, gagnée de justesse par les Anglais. Mais ils n'en ont pas tiré toutes les conséquences. D'ailleurs, ils se sont dit que la Navy aurait toujours la supériorité et pourrait toujours les tirer d'affaire.
Je ne vais pas vous faire hurler, mais ça me fait penser à Dien Bien Phu comme situation.
Je pensais exactement la même chose.
S'enfermer comme ça dans un lieu, en comptant sur les liaisons permises par la flotte ou par les moyens aériens, et ça tourne très mal.
Alors on peut peut-être dire comment ça se passe, en quelque sorte, cette bataille de la Chesapeake qui aura donc tant de conséquences. Donc, de grâce, se perd tellement qu'il égare les Anglais. Et ils finissent par arriver donc dans cette baie de la Chesapeake dont on a dit qu'elle était absolument gigantesque. Et ensuite quoi? Quel est le plan? Quel est le projet? Et comment ça va se passer?
La priorité de De Grasse, c'est de mener des opérations de débarquement à ce moment-là. Donc là, il faut se dire qu'il y a une espèce de système de poupées russes opérationnelles. C'est-à-dire qu'il y a des opérations imbriquées les unes dans les autres. Et si on veut débarquer des troupes, il faut d'abord tenir la zone, c'est-à-dire empêcher l'ennemi de mener des initiatives. Or, on est sur une baie de petits fonds, donc on ne peut pas naviguer avec de grands vaisseaux sur cette baie. Il n'y a pas d'eau sur la baie de la Chesapeake, c'est une chose qu'il faut avoir à l'esprit. Donc on est obligé d'organiser le blocus de rivière avec de plus petits bâtiments. Ensuite, il faut maintenir son activité de renseignement permanente pour savoir ce que va faire l'ennemi. Et puis, il faut se préparer à débarquer dans des conditions qui sont inédites, puisque les points de débarquement sont extrêmement éloignés des points de mouillage des vaisseaux. Là aussi, on est à l'échelle d'une baie absolument gigantesque et on débarque des troupes à l'équivalent de plus de 60 km du point d'où elles sont parties. Ce qui est, même pour des opérations amphibies contemporaines, absolument inimaginable. Donc tout cela se met en place dans les premiers jours qui suivent l'arrivée fin août des flottes de la flotte française. Et les premières opérations de débarquement, d'ailleurs, commencent de nuit. C'est-à-dire que les opérations amphibies sont déclenchées de nuit avec plusieurs vagues en fait, d'assauts qui sont lancées sur la rivière. Donc la priorité de Grasse est bien de mener ces opérations amphibies, et ce qui a une conséquence très directe, c'est qu'il manque énormément de monde à bord des vaisseaux. Il y a beaucoup de marins qui sont occupés à débarquer les troupes de l'armée. Les chaloupes des vaisseaux sont également utilisées pour ces débarquements. Donc elles ne sont pas disponibles pour la manœuvre des vaisseaux si jamais ils doivent appareiller. Tout cela crée une situation, on va dire, risquée pendant cette phase de débarquement. Or, c'est précisément là que les Britanniques arrivent au petit matin du 5 septembre.
Et à ce propos, remarquez que ce que nous vous disons là, nous l'avons constaté grâce à ces journaux, que personne n'avait exploité de cette manière-là avant. Et que la conséquence, c'est que ça modifie complètement le regard qu'on porte sur la bataille du 5 septembre. Parce que dans la présentation classique, depuis le 19e siècle, la bataille du 5 septembre est un combat indécis, ce qu'il est, effectivement, qui est une sorte de prologue à la partie la plus consistante du récit, qui est le siège de Yorktown. Et que De Grasse joue les utilités.
Bon, il sert à éloigner la flotte anglaise.
Éloigner la flotte anglaise. Et puis, ensuite, les vrais acteurs s'appellent Washington, Rochambeau, Lafayette. Bon, ça, c'est insuffisant comme vision des choses. En fait, nous avons un emboîtement d'opérations à l'échelle de toute une baie, avec des savoir-faire opérationnels variés, qui sont bien maîtrisés. Les premiers à investir Yorktown, c'est les marins. Et les 3000 hommes de troupes coloniales embarqués à Saint-Domingue. Et ça, il fallait la flotte de De Grasse. Sans elle, ce n'était pas possible d'investir Yorktown. Et ensuite, ça va être les plus petits bateaux qui vont remonter dans le nord de la Chesapeake, aller convoyer des troupes qui auraient mis trop de temps pour arriver à pied. Donc là aussi, De la même manière, le blocus des rivières, on ne pouvait pas, parce que ça circule énormément dans la Chesapeake. La Virginie, c'est la grande zone productrice de tabac. Il y a des quantités de bâtiments de commerce. Il y a plein de gens qui circulent, des Américains anti-anglais et des Américains loyalistes. La preuve, quand De Grasse arrive, alors évidemment, on met des pavillons britanniques, histoire d'égarer l'ennemi, un loyaliste se précipite, vient offrir des cadeaux à celui qu'il pense être Rodney. Erreur fatale.
On se livre ici un exercice un peu périlleux, qui est de décrire à l'oral, sous format radio, des opérations qui prennent place sur un théâtre géographiquement très complexe. Et peut-être on peut faire une incise pour dire que vous faites attention à ça dans votre livre. C'est un livre qui est très bien illustré. Il y a des cartes d'époque. Et puis il y a aussi des reconstitutions que vous avez faites d'après ces relevés de position des navires, des dispositions des flottes. Est-ce que c'était important pour vous, dans votre démarche éditoriale, de travailler ce matériau géographique et de le rendre visible?
C'est juste fondamental. C'est juste fondamental parce que la géographie, au même titre que la météorologie, commande dans le cas présent. Travailler sur les documents hydrographiques de 1781 est nécessaire puisque on voit bien que cette baie est une baie de petits fonds, qu'on a des grands bâtiments de combat qui ont un fort tirant d'eau, qui ne peuvent pas aller partout. Il y a énormément de hauts fonds sur la baie de Chesapeake. Donc il est nécessaire de comprendre l'environnement dans lequel ces opérations ont pu être conduites. Et ensuite, là, une des réflexions que l'on se faisait, vraiment une réflexion très simple au début de ce travail, c'était qu'on trouvait très peu satisfaisante, vous savez, ces représentations qu'on voit habituellement des batailles où les vaisseaux sont soigneusement alignés les uns derrière les autres, très strictement équidistants. La lecture des journaux contrarie très fortement cette vision. Et il nous a paru absolument nécessaire de travailler sur ces données opérationnelles d'époque pour bien comprendre ce qui se passe concrètement sur l'eau, c'est-à-dire qu'est-ce qui se passe concrètement avec des bateaux dont on a dit que certains étaient doublés cuivre, d'autres pas, mais ce n'est pas la seule de leurs différences. Il y a des bateaux qui ont des carènes différentes, des points de valeur différents, des avaries parfois différentes, des équipages aux compétences différentes, et tout ça se traduit ensuite sur le plan d'eau par des dispositifs qui n'ont rien à voir avec le bel ordonnancement que l'on voit sur les cartes.
Avec quelque chose que vous montrez très bien dans le cœur du chapitre sur la Chesapeake, c'est qu'au cœur de la bataille, le vent refuse et que du coup, ça se traduit par
Alors le vent refuse, on va pas juste préciser que c'est un
J'allais évidemment demander à nos invités d'éclairer ce fait, mais c'est fondamental et c'est vraiment... Moi, c'est une des premières fois que je lis et que je visualise justement cette donnée-là au cœur d'une bataille navale.
Nous essayons d'abord de comprendre ce que nous lisons. Plus d'une fois, on s'est trouvé en limite de potentiel bibliographique parce qu'il n'y avait pas grand-chose pour nous éclairer. Et c'est là où l'expérience de Voileux de Jean-Marie, par exemple, ou certains de nos interlocuteurs de l'Envéoc, là, l'école navale, ont été décisifs pour nous. Parce qu'autrement, on ne saisirait pas tout ce qui est marqué. Puis, notre question, c'est comment ça marche? Pourquoi est-ce que ça marche à un moment donné? Pourquoi ça ne marche plus? Ensuite, et c'est toujours la question la plus redoutable en histoire, c'est ce que je dis à mes étudiants, vous essayez de comprendre mais comment est-ce que Bossuet disait sa messe, comment est-ce qu'un boulanger au temps de Louis XIV travaille? On n'en sait rien, et c'est justement ce qu'on aurait besoin de savoir.
Mais alors, je vais juste faire une incise sur cette question de la visualisation pour dire que le camarade Loïc Germer, donc Capornier, qui est maintenant vidéaste youtubeur, sort, je crois, dans quelques jours une vidéo sur la bataille de la Chesapeake, donc que je n'ai pas vue parce qu'elle n'est pas encore sortie, mais je lui fais tout à fait confiance. Et je pense que ce sera un complément tout à fait utile, justement, pour visualiser ce qui va se passer. Mais alors, justement, parlons-en peut-être du détail de cette bataille, puisque... Il arrive ce qui a souvent été présenté comme le coup de génie de De Grasse, donc l'escadre britannique arrive à l'entrée de la baie de la Chesapeake.
C'est la surprise en fait.
De Grasse est à l'intérieur.
Logiquement, ça aurait dû être un désastre.
Et là, se témoigne, mais on revient au caractère de De Grasse, mais c'est toute une partie de toute cette aventure, une capacité d'adaptation et une souplesse intellectuelle, disons, qu'on ne lui soupçonnait pas forcément et qu'on ne lui verra pas forcément par la suite, qui est qu'il décide d'abandonner l'ordre habituel, la manière dont on fait les choses, et il décide de faire les choses au plus vite, ce qu'on va appeler la ligne de vitesse, et c'est ce qui va finalement sauver la flotte française du désastre.
C'est exactement ça. S'il y a une image qui peut venir à l'esprit comme ça, c'est un peu la sortie du village gaulois. C'est-à-dire que vous voyez...
le domaine des dieux, par exemple. Voilà.
Et vous avez en face de vous les légions romaines version nautique, c'est-à-dire la flotte britannique qui arrive, et les Gaulois sortent de leur village et se battent immédiatement. Et alors, il y a un peu de ça.
Tout se passait le premier.
Il y a un peu de cela. Néanmoins, c'est beaucoup moins improvisé qu'on ne pourrait le croire. Parce que il y a une surprise qui est renforcée le matin. De Grasse disposait de frégates qui étaient en mer pour le renseigner sur l'arrivée éventuelle de Britanniques. Et là, manque de chance, le 5 septembre matin, eh bien, la frégate qui est censée le renseigner s'est mise au sec. S'est échouée. Et donc, il n'a plus de vision de ce qui se passe à l'extérieur. Et c'est à ce moment-là que les Anglais arrivent. Donc, la situation est extrêmement difficile. Et là, le risque de se faire canonner au mouillage est majeur. Donc on donne l'ordre d'appareiller en urgence, alors on prend les dispositifs pour
ça. Rappelons qu'à cette époque-là, la seule bonne manière de se battre, la seule manière efficace, c'est donc de faire la ligne de file, c'est donc d'être en ligne, si possible bien droite, si possible très parallèle à l'ennemi, parce que c'est là que les canons débordés portent le mieux, et que donc tout l'enjeu c'est de réussir à se disposer efficacement et suffisamment rapidement pour être dans cette position-là.
Il faut être non seulement en ligne, mais en plus à sa bonne place dans la ligne.
Hein, et ne pas se faire traverser.
Voilà, et puis les escadres sont constituées, c'est-à-dire il y a une avant-garde, un corps de bataille, une arrière-garde, et là ce que De Grasse commande est totalement disruptif, c'est-à-dire que le premier qui est prêt à sortir doit sortir, et ce qui a pour effet de placer en fait en tête de la flotte française les bateaux qui sont les plus aptes à combattre, qui ne sont pas forcément les bateaux les plus modernes, qui ne sont pas forcément les bateaux doublés cuivre, mais qui sont des bateaux dont les équipages sont prêts à se porter contre l'ennemi.
Du point de vue de l'usage de l'artillerie, de la canonnade, comment se déroule la bataille de la Chesapeake? Est-ce que les deux flottes, d'abord, sont équilibrées en termes de puissance de feu? Et puis, qu'est-ce qui l'emporte?
Alors, je pense qu'il faut voir un instant les choses du côté britannique. Les Britanniques arrivent vers l'entrée de la baie de la Chesapeake. Ils ont subi une nuit pénible, il y a eu un gros orage pendant la nuit, ils n'ont pas dû beaucoup dormir à leur bord, ils ne sont peut-être pas très en forme. Et les Britanniques, dont nous savons qu'ils sont un peu moins nombreux que les Français, si vous prenez la fiche technique de la bataille, mais oublions ce détail, les Britanniques, c'est en fait deux escadres différentes, mal coordonnées, qui n'ont pas l'habitude, celle de Hood, qui arrive des West Indies, des Antilles anglaises, et puis celle de Graves, qui arrive de New York, qui n'a pas la même culture opérationnelle, parce que ces marines ne sont pas unifiées en termes de pavillonnerie, en termes de culture tactique, etc. Graves commande par intérim à New York. Et là, il va se trouver face à une situation que personne n'a prévue. Il a été formé dans la Channel Fleet, la flotte de la Manche. Ce n'est pas du tout la même culture que Hood. Hood est en tête. Il avance vers les caps de Virginie, l'entrée de la baie de la Chesapeake. Et puis, progressivement, commence à se rendre compte qu'il y a des vaisseaux français. Ça, on s'attend plus ou moins à les trouver. Mais il y a quand même une mauvaise surprise. C'est que on les compte et il y en a de plus en plus. Et alors, ils se disent, tiens, les Français de Newport sont arrivés. Et puis, ils continuent de compter. Non, c'est pas possible.
Alors, ça, il faut juste préciser, on y a fait référence rapidement, c'est que Barras avait donc toute une flotte à Newport, donc plus en amont d'une des rivières. Et donc, l'enjeu, c'est de savoir s'il allait arriver, s'il allait pouvoir faire jonction avec De Grasse, et si oui, quand. De Grasse ne l'attendait pas nécessairement, enfin, il ne savait pas lui-même forcément s'il arriverait. Donc c'était une possibilité pour tout le monde, mais là, à ce moment-là, les Français de Newport ne sont pas du tout arrivés, c'est juste l'escadre de De Grasse dont il s'avère qu'ils
arrivent
plus grosses.
Après la bataille. Voilà. Et là, les Anglais, qui s'attendent à ce que De Grasse ait 10, au grand maximum 12 bâtiments, ils font leur compte, et là, ils se rendent compte qu'il y a un nombre de vaisseaux qui dépasse la dizaine. Et il y a deux éléments qui vont jouer. D'abord, à partir de midi, il y a la renverse de la marée. Jusqu'à présent, la marée portait les Britanniques. Maintenant, elle va permettre à De Grasse son appareillage en ordre de vitesse, ce qui est une chose importante. Et Graves, qui n'est donc pas en tête, voit moins bien les choses. Et ça, ce qu'on voit est l'appréciation de l'espace. Et se dit, le Hood est en train de s'approcher trop des bancs qui sont à l'entrée de la baie, et donc il va donner l'ordre de virer de bord, mais d'une manière qui va inverser complètement le dispositif. Et c'est ça va vraisemblablement être très mal vécu par Hood, qui pensait avoir sa journée, sa victoire, et pouvoir surprendre les Français au mouillage et les écraser, prenant en quelque sorte sa revanche de l'arrivée à la Martinique. Et puis en fait, à partir de ce moment-là, rien ne va plus. Et c'est là où toutes les virtualités de vulnérabilité qu'il y avait dans cette double force britannique mal coordonnée vont jouer en faveur de Degrasse. Et les Français sortent comme ils peuvent, de manière discontinue de la Chesapeake, se rangent plus ou moins bien au large, avec une double force britannique qui a viré de bord. Et après, ça va être celui qui utilise au mieux le vent et qui sera le moins en désordre.
Et la force britannique ayant viré de bord, ce qu'il faut bien visualiser, c'est que l'avant-garde devient l'arrière-garde et que l'arrière-garde devient l'avant-garde. Avec des bâtiments qui, à l'arrière-garde, étaient globalement moins performants que ceux de l'avant-garde.
Avant peut-être de reposer ma question sur ce qui s'est passé dans l'affrontement d'artillerie entre les deux flottes, je voulais rebondir sur ce que vous avez dit, sur ce qu'on voit, ce qu'on ne voit pas, sur ce que voient les capitaines et les officiers, sur le fait qu'ils ont des longues vues, qu'ils essayent de discerner, mais qu'on ne discerne pas tout, et notamment le fait qu'un navire est ami ou ennemi. Il y a un moment où on peut le voir, mais on peut aussi déguiser ses couleurs à certains moments. Donc, est-ce qu'on peut restituer ce que ça veut dire, cette confusion visuelle, qui ensuite est accrue, évidemment, par la poudre, la fumée du tir d'artillerie. Donc, l'enjeu visuel d'une bataille navale telle que celle
au début,
de la Chesapeake.
C'est des petites silhouettes que vous voyez sur l'horizon. Et c'est tellement important qu'en fait, quelques journées auparavant, les Français et les Anglais ont été en vue les uns des autres, mais n'ont pas compris. En fait, on a pris conscience en croisant les journaux français, les logbooks britanniques, que le même jour, à la même heure, il y a des voiles inconnues, strange sails, qui sont pérées. C'est fascinant. Mais c'est-à-dire que c'était des toutes petites silhouettes sur l'horizon. Et la mer, il n'y a pas que les flottes de guerre. Il y a des quantités de bâtiments de commerce neutre qui circulent. Donc à partir de là, il faut analyser des choses qui ont entrevu à un moment donné. Alors là, évidemment, la Chesapeake, ça prend une autre tournure parce qu'on les voit qui sortent et puis qui grossissent.
Et ce sont des flottes que l'on voit très loin. Pour donner un ordre de grandeur, le tirant d'air, donc c'est là, finalement la hauteur globale d'un vaisseau de 74 canons, c'est quasiment celle du Charles de Gaulle aujourd'hui.
Voilà, donc Paris, c'est les tours de Notre-Dame.
Oui, donc ce sont des bâtiments gigantesques et qui portent des voiles visibles de très loin. Donc on voit de très loin ces flottes-là, on les voit très loin, et puis on voit dans les journaux le moment où on commence à distinguer combien de ponts il y a. Puis à un moment où on distingue la couleur, et ce qui permet de donner un nom parfois.
Jusqu'au moment où on est tellement proche qu'on entend les ordres donnés sur le bâtiment qu'on s'apprête à canonner.
Voilà, donc il y a une granularité d'informations données dans les journaux qui permet d'évaluer aussi la distance à laquelle se situent les flottes l'une de l'autre.
Alors ensuite, pour faire un sort en quelque sorte à cette bataille, mais qui est, bon, c'est une bataille navale, donc de flottes plus ou moins en file qui se canonnent, et pour reprendre un mot de Maurepas, à la fin la mer n'en est pas moins salée, mais en gros à la fin il y en a, mais ici c'est particulièrement indécis, c'est beaucoup plus indécis que ça le sera au centre. À la fin, bon, les deux flottes se séparent, les Français rentrent dans la Chesapeake, les Anglais restent au large, et tout le monde s'attend plus ou moins à ce que ça reprenne, parce que manifestement c'est une affaire qui n'a pas été tranchée. Et ce qu'il y a de fascinant, c'est que c'est cette affaire qui n'a pas été tranchée qui aboutira à, qui deviendra la plus grande victoire navale peut-être de l'histoire française.
Indécise, bataille décisive. Les Anglais vont revenir le jour de la capitulation du Yorktown, trop tard.
Mais d'abord, la bataille, ça cesse parce qu'on est aussi en fin de journée. Donc, la nuit tombe. Donc, là, on arrête. Pendant la nuit, les marins français restent en fait, au poste de combat. C'est-à-dire qu'ils sont prêts à un nouvel engagement qui peut éventuellement survenir le lendemain. Ils restent très longtemps à la mer, c'est-à-dire qu'ils ne reviennent pas tout de suite sur la baie. Ils veulent prévenir toute tentative britannique parce qu'on sait aussi que
la flotte de Barras doit arriver et que cette flotte de Barras transporte des matériels particulièrement précieux puisqu'elle transporte avec elle le train de siège. Donc il faut absolument que Barras puisse passer sans se faire intercepter par les Britanniques. Maintenant, les Britanniques ayant échoué à entrer sur la baie, ils ont très rapidement conscience qu'ils ont perdu la partie et ça leur correspondance le trahissent. C'est-à-dire que la bataille est certes d'une certaine manière indécise, puisqu'elle ne s'achève pas avec un bilan désastreux du côté britannique. Il y a un vaisseau qui doit être sabordé, il y a quelques dizaines de morts, mais on ne peut pas dire qu'il s'agisse d'une victoire écrasante sur le plan militaire. En revanche, du fait qu'elle empêche les Britanniques de rentrer sur la baie, du fait qu'elle permet au train de siège de passer, ses conséquences, effectivement, sont stratégiques et dépassent très largement la victoire militaire.
Les marins sont plus vite conscients, les marins britanniques en tout cas. Quand on voit la correspondance, tant que l'investissement du Yorktown n'est pas complet et définitif, Cornwallis ne semble pas inquiet outre mesure. La flotte va revenir. Quoi. On a des moyens, on n'est pas dépourvu. Bah, effectivement, à ce moment-là, le gros des forces de terre françaises et de l'armée continentale de Washington ne sont pas encore là. Donc l'affaire ne semble pas désespérée. C'est un contre-temps, il faut attendre un peu plus.
Et finalement, ça n'aura donc jamais lieu. Mais alors, peut-être qu'on ne va pas avoir le temps de détailler tout ça, mais ça pourrait faire l'objet d'une autre émission et on ne va pas détailler jusqu'à la bataille des Saintes. Mais puisqu'on a quand même passé du temps sur De Grasse, sur son caractère, sur son adaptabilité qu'on a vu au sein de cette bataille de la Chesapeake, il faut dire un mot quand même de la fin de la campagne qui va se terminer assez dramatiquement pour lui. Et d'autant plus dramatique, enfin c'est ça qui est fascinant, c'est qu'on voit se renverser tout ce qui fait sa force et tout ce qui, le fait qu'il a plutôt bien commandé dans cette affaire qui n'était pas particulièrement simple. Au contraire, donc dans les batailles de 1782, donc d'abord à Saint-Christophe, puis aux Saintes, en fait on voit qu'il réussit à saper tout à fait son commandement avec un travers qui n'est pas unique dans l'histoire des chefs militaires, qui est, on pourrait appeler ça le micromanagement, mais qui est que le fait qu'il essaye de tout contrôler, de donner des ordres à tout le monde, tout le temps, et que, étant donné, déjà ça ne marcherait pas bien à terre, mais étant donné les conditions de communication à l'échelle d'une flotte, en fait ça marche de moins en moins bien, tant et si bien qu'à la bataille des Saintes, il va finir par se faire en quelque sorte abandonner par ses capitaines, tant il les place dans une position impossible.
Alors, on doit raisonner sur deux plans différents. Il y a le mode de commandement de De Grasse. Il ne faut pas oublier que De Grasse est parti sur ordre, sans avoir pu rétablir sa santé après un assez long séjour aux Antilles. Il y a une usure physique qui peut-être peut se transformer aussi en usure morale. Donc ça, c'est le premier élément. Et De Grasse s'enferme dans son état-major, dans un petit monde d'officiers. Et ce qui m'a frappé, parce que dans les journaux, on a regardé, est-ce qu'il y a des moments où il réunit ses grands subordonnés? Est-ce qu'il y a des contacts qui sont indiqués avec ses chefs d'escadre? Et on se rend compte qu'il n'y a plus de communication. Et ça, c'est quelque chose de tout à fait significatif. Il n'explique plus ce qu'il veut faire. Alors, il veut commander de manière très, très verticale. Il n'explique plus. Ça, c'est le premier élément. Le deuxième élément, c'est cette notion que nous avons commencé à développer, qu'on va reprendre dans un deuxième volume, ce que j'appellerais le potentiel opérationnel d'une flotte. Le potentiel opérationnel, c'est-à-dire l'ensemble de tout ce qui fait la force d'une force navale, se trouve manifestement à son plus haut degré au moment de la Chesapeake. Et puis, ensuite, on va voir, les vaisseaux vont se détériorer. Les équipages vont commencer à subir la durée de campagne. Et de ces vaisseaux, ils sont dépendants des rechanges qu'ils ont à leur bord. Sauf qu'il y a un moment, à force de changer des voiles, de changer des cordages, etc., on a mangé ses réserves. Et on est complètement dépendant de tout ce qui doit arriver de Brest. Il n'y a pas d'arsenal français digne de ce nom. Bon, on peut s'appuyer un peu sur Fort Royal, hein, la Martinique, Fort de France aujourd'hui. Vous pouvez caréner 4 ou 5 bâtiments. Mais ce que vous avez là, dans les magasins, c'est tout ce que vous avez fait venir de Brest. Et il y a un moment, on est complètement dépendant du cordon ombilical depuis Brest. Alors, on passe une liste de courses, il y a un énorme convoi qui part en décembre 81, escorté par Guichen, et ce convoi est un des rares convois français à ne pas traverser, à ne pas réussir sa traversée. D'abord parce qu'il est dispersé par une tempête, et ensuite parce qu'il est attaqué par les Anglais. Et les rechanges ne vont arriver que très peu de temps avant la bataille des Saintes. On va avoir flotte française qui va subir une dégradation matérielle, mais aussi ça va être les liens dans la chaîne de commandement qui se détériorent très rapidement et de grâce perd le contrôle de sa force.
Le paradoxe, c'est qu'il en perd le contrôle tout en étant, vous l'avez dit, très vertical, très directif. Il y a un tableau fascinant dans votre livre, page 446, des signaux comparés entre l'amiral de Grasse et l'amiral Hood. On voit que de Grasse est beaucoup plus bavard par pavillon que le britannique, puisque d'un côté, on a un signal anglais à 6 heures, « Signal for a line of battle ». Et puis, on va avoir, à la même heure, 5-6 signaux différents. Faire virer l'armée du côté français, faire virer l'armée vent devant tous à la fois. Signal de rallier l'armée en ordre. Bâbord à mur dans l'ordre naturel. Rallier l'armée à l'ordre de bataille, la mur à bâbord. Ordre à l'armée d'être exact à relever le général, etc., etc. Autrement dit, on a une profusion d'ordres dont on se dit que ça devait être difficile peut-être à percevoir, à décoder, puisque chacun de ces pavillons correspond à un livre dans lequel les drapeaux de colorés correspondent à une instruction. Il faut le temps de le comprendre, le relayer.
En fait, De Grasse sature le mode de transmission français. Dès la Martinique, il envoie un nombre d'ordres absolument invraisemblables qui se succèdent à un rythme qu'on ne peut pas suivre. Et on s'est rendu compte que De Grasse avait passé son temps tout au long de la campagne à modifier la pavillonnerie. Et à un moment, dans les différentes unités, les gens n'arrivent plus à s'y retrouver. Et ça contraste avec le laconisme de Hood ou de Rodney.
Il ne maîtrise plus le temps non plus. Et dans la bataille, maîtriser le battle rythme, c'est juste fondamental. Et là, il se fait imposer la temporalité du combat par son adversaire aux Saintes. Donc, entre deux travers, celui de ne rien dire et donc d'inquiéter ses subordonnés parce qu'on ne dit rien sur la fréquence, si on peut faire ce parallèle contemporain, ou trop parler rendre inexécutables les ordres, eh bien, il tombe dans le deuxième travers en faisant en plus du micromanagement qui le conduit à ne pas appliquer la subsidiarité élémentaire qui devrait dans le cas présent s'appliquer, c'est-à-dire celle qui consisterait à s'appuyer sur ses chefs d'escadre en leur indiquant ses intentions plutôt que de les chinter et d'en arriver à donner des ordres à chaque bâtiment individuel, alors que lui-même ne dispose pas de la vision globale et qu'il n'est pas en position de l'avoir. Donc il tombe dans ces divers travers, c'est-à-dire qu'il se fait imposer le rythme par l'ennemi, il prend un niveau de décision qui n'est pas le sien, et c'est une forme d'échec du commandement à ce moment-là.
On n'a vraiment pas... Il faudrait entrer dans le détail de la bataille des Saintes parce que c'est aussi tout à fait fascinant sur... même le déroulé, la manière dont il va se faire abandonner progressivement par tous ses capitaines. Et c'est vraiment un dénouement tout à fait tragique à une armée navale qui pourtant...
C'est bien, ça donne envie de lire le livre comme ça.
Oui, tout à fait. Et un livre qui est, par ailleurs, je le répète, réellement excellent. Pour terminer, j'aimerais revenir à ce que j'ai mentionné au début. Je l'ai dit, c'est une émission, c'est tout à fait intéressant, ça m'a beaucoup amusé, qui m'a été suggérée par la Marine nationale. À peu près, au moment de... Je dévoile rien. Enfin, je veux dire, la Marine nationale a fait un certain nombre d'opérations de commémoration de la Chesapeake en septembre, et la manière dont il me l'avait formulé, c'est qu'il voulait faire de la Chesapeake en quelque sorte le Cameron de la marine, donc l'équivalent mémoriel de la bataille de Cameron pour la Légion, c'est-à-dire un grand fondement, un grand socle, une victoire à célébrer, qui disent quelque chose un peu de l'identité de la marine nationale. Je ne sais pas, qu'est-ce que vous en pensez, disons, de ce choix de la Chesapeake comme, alors après, est-ce que ça marchera, est-ce que ça ne marchera pas, il faut que ce soit approprié aussi par les marins, évidemment, et puis plus généralement par le public. Mais disons de ce choix de la Chesapeake comme point de ralliement, peut-être, mémoriel de la Marine nationale.
C'est une surprise pour nous, parce que ça faisait 12 ans qu'on était à travailler sur nos journaux, et tout d'un coup, on a appris ça, on n'y est absolument pour rien. On n'a pas vu venir la chose.
Pourtant, Jean-Marie est à l'école navale, donc il aurait pu sortir.
Mais sur le fond... Moi, j'ai toujours été frappé par la difficulté même qu'avaient les marins à identifier dans leur histoire tout simplement les batailles auxquelles la marine a participé, les opérations auxquelles elle a participé. Et au-delà du fait qu'il s'agit d'une victoire dont les conséquences stratégiques sont celles que vous savez, c'est là l'occasion aussi à chacun de réfléchir. C'est-à-dire que les marins, au travers de ces événements historiques, peuvent réfléchir aussi bien à des situations tactiques qu'au sens de ce qui peut être leur engagement aujourd'hui. On parle certes d'une époque qui est celle de la marine à voile, mais on parle aussi d'opérations qui sont menées avec l'armée de terre, qui sont menées avec les alliés, qui sont menées à l'échelle d'un océan, à l'échelle même de la planète. Et tout ça est éminemment source de réflexion pour le marin contemporain. Donc tout cela a du sens. Et puis en plus, le hasard fait bien les choses. La bataille a eu lieu le 5 septembre. C'est la rentrée. C'est pour nous aujourd'hui la rentrée, du moins. Pour tous les marins aussi, c'est d'une certaine manière la reprise. Et c'est une très bonne chose que finalement, en début d'année, en début d'affectation souvent, des gens aient un moment pour réfléchir ensemble à tout ce qui fait leur engagement contemporain.
Il y a eu une œuvre musicale qui, à la demande de la marine, a été composée. Qui est quelque chose de tout à fait réussi. Alors là, qui était à la première, du moins, à Saint-Louis des Invalides, où tout à coup j'entends le récitant. Je me dis, mais c'est notre livre, c'est un extrait de notre livre qu'il est en train de lire. Alors là, ma stupeur était évidemment totale. Mais au-delà de la boutade, moi ce que j'apprécie, surtout quand on voit un peu ce qu'est la culture militaire française, sortir du culte des défaites glorieuses, c'est qu'on cesse de rêver sur Gabriel, Eliane et Béatrice, et puis qu'on regarde des victoires incontestables.
Merci Olivier Chaline, merci Jean-Marie Kowalski. On rappelle le titre de votre ouvrage, L'Amiral de Grasse et l'Indépendance américaine, tome 1, Commandant en opération, Sorbonne Université Presse. On rappelle aussi que si des auditeurs et des auditrices veulent visualiser ces vaisseaux gigantesques et magnifiques dont on a parlé, le Musée de la Marine a rouvert ses portes à Paris, au Trocadéro, il y a quelques semaines. On peut voir un grand nombre de maquettes très très suggestives.
Et on peut signaler, donc je renvoie aussi, je mettrai le lien en description de la vidéo de Loïc Germer qui, je pense, sera tout à fait complémentaire de cette émission. Merci beaucoup à tous les deux.
Merci.
C'était donc Le Fil de l'Épée, un podcast produit et co-animé par André Loez et Alexandre Jublin, distribué par Binge Audio. On vous rappelle que toutes les remarques, commentaires et suggestions sont bienvenues par mail ou sur les réseaux sociaux du Rubicon, d'André ou de moi-même. Tout ça est toujours bienvenu, extrêmement intéressant et stimulant, tout comme notes et appréciations, notamment sur les outils d'Apple Podcast ou de Spotify. Merci à toutes et tous et à la prochaine fois.
Selling a little or a lot? Shopify helps you do your thing however you cha-ching. Shopify is the global commerce platform that helps you sell at every stage of your business. From the launch your online shop stage to the first real life store stage. All the way to the did we just hit a million orders stage. Shopify is there to help you grow. Shopify helps you turn browsers into buyers with the internet's best converting checkout. 36% better on average compared to other leading commerce platforms. Because businesses that grow, grow with Shopify. Get a $1 per month trial period at shopify.com/work. Shopify.com/work.